Pinocchio par Carlo Collodi, 6e cassette, 2e face, page 252.
Pendant cette conversation, Pinocchio crut distinguer loin, bien loin, une espèce de clarté. Que peut bien être cette petite lumière là-bas ? Demanda Pinocchio.
Ça doit être quelqu'un de nos compagnons d'infortune qui attend comme nous, dit le thon, le moment d'être digéré.
Je vais aller le trouver. C'est peut-être un vieux poisson qui est capable de m'enseigner le moyen de m'enfuir.
Je te le souhaite de tout mon cœur.
Adieu, thon.
Adieu, pantin, et bonne chance.
Où nous reverrons-nous ?
Qui sait ? Il vaut mieux ne pas y penser.
Chapitre 35. Pinocchio retrouve dans le corps du requin. Devinez qui ? Ce chapitre vous l'apprendra. Dès que Pinocchio eut dit adieu à son excellent ami le thon, il s'ébranla en pleine obscurité et avança à tâtons dans le corps du requin. Il s'approchait pas à pas de cette petite lueur qu'il voyait vaciller dans le lointain. En marchant, il sentit que ses pieds enfonçaient et glissaient dans un trou plein d'eau grasse. Cette eau dégageait une très forte odeur de poisson. Et plus il avançait, plus la clarté devenait distincte et vive. Il marcha, et il arriva enfin. Quand il fut arrivé, que trouva-t-il ? Je vous le donne en mille. Il trouva une petite table bien servie. Sur cette table, il y avait une chandelle allumée qui était emmanchée dans le goulot d'une bouteille. Devant la table était assis un petit vieux tout blanc comme s'il avait été de neige ou de cendre. Il était installé là et mâchonnait quelques petits poissons vivants, mais si vigoureux, ces poissons, que parfois, au moment où il allait les avaler, ils lui échappaient de la bouche. À cette apparition, le pauvre Pinocchio ressentit une joie si grande et si inattendue qu'il faillit en devenir fou. Il voulait rire, il voulait pleurer, il voulait dire toutes sortes de choses. Au lieu de cela, il balbutiait des mots sans suite et inintelligibles. Enfin, il réussit à pousser un cri de joie et ouvrant les bras, il se jeta au cou du vieillard en criant « Oh, mon papa ! Enfin, je vous ai retrouvé ! Maintenant, je ne vous quitte plus ! Non, plus jamais ! Jamais ! Jamais !»« Mais je ne me trompe pas ! » dit le vieillard. « C'est vraiment toi ? Mon petit Pinocchio ? Oui, oui, c'est moi, c'est bien moi. Vous m'avez bien pardonné, n'est-ce pas, papa ? Oh, mon papa, comme vous êtes bon. Et dire que moi ? Oh, si vous saviez tous les malheurs qui me sont arrivés et toutes mes misères. Figurez-vous, mon pauvre papa, que le jour où vous avez vendu votre paletot pour m'acheter un alphabet et m'envoyer à l'école, je m'étais échappé pour voir les marionnettes. Et le patron des marionnettes voulut me jeter au feu pour faire rôtir un mouton. Mais ensuite, il me donna 5 écus d'or pour vous les porter. Malheureusement, je rencontrai sur mon chemin le renard et le chat qui me conduisirent à l'auberge de l'écrevisse rouge où ils mangèrent comme des ogres. Moi, je fus obligé de partir seul dans la nuit et je rencontrai des brigands qui se mirent à courir derrière moi. Je m'enfuis bien loin, bien loin. Ils me poursuivaient, je m'en allais plus loin encore. Ils étaient toujours à mes trousses. Je courus encore plus fort, mais ils me rattrapèrent et me pendirent à la branche du grand chêne, où la belle jeune fille aux cheveux bleus envoya un petit carrosse pour me recueillir. Quand les médecins m'eurent examiné, ils déclarèrent aussitôt « S'il n'est pas mort, c'est qu'il est encore vivant. » Puis je dis des mensonges et mon nez commence à agrandir tellement, tellement qu'il ne pouvait plus passer par la porte de la chambre. Alors j'allais avec le renard et le chat enlever les 4 pièces d'or, car j'en avais dépensé une à l'auberge, et le perroquet se mit à rire, et bref, au lieu de 2000 écus, j'en avais plus du tout. Et quand le juge a su que j'avais été volé, il me fit mettre en prison pour donner satisfaction au voleur. En sortant de prison, je vis une belle grappe de raisin dans un champ. Je restai pris au piège du paysan qui, avec raison, me mit le collier au cou pour que je monte la garde devant son poulailler. Mais il reconnut mon innocence et me rendit la liberté. Mais le serpent à la queue fumante se mit à rire et rit tellement qu'il se rompit une veine du cou. Alors je retournai à la maison de la belle jeune fille, mais qui était morte. En me voyant pleurer, le pigeon me dit « J'ai aperçu ton papa en train de fabriquer une petite barque pour aller à ta recherche. » Et je lui répondis « Ah, si j'avais des ailes comme toi !» Il ajouta « Veux-tu venir retrouver ton papa ?» Je lui dis « Plaise à Dieu, mais qui me portera ?» « Moi ?» me répondit-il. Je lui demandai « Comment ?» Il me répondit « Monte sur mon dos. » Et ainsi, nous avons volé toute la nuit. Et le lendemain matin, les pêcheurs qui regardaient du côté de la mer me dirent « Il y a là-bas dans une barque un pauvre homme qui va se noyer. De loin, je vous reconnus aussitôt, car mon cœur me disait que c'était vous. Et je vous faisais des grands signes pour que vous reveniez vers la rive. » « Je t'avais bien reconnu, moi aussi, » dit le papa, « et je serais volontiers revenu vers la rive. Mais comment faire ? La mer était déchaînée et une grosse vague renversa ma barque. Un énorme requin était justement tout près de là. En me voyant, il accourut vers moi, allongea la langue, puis très tranquillement me happa comme une mortadelle de Bologne. C'est une espèce de saucisson italien. « Et depuis combien de temps êtes-vous renfermé ici ?» demanda Pinocchio. « Voici bientôt 2 ans, mon petit Pinocchio. 2 ans qui m'ont paru 2 siècles. Et comment avez-vous fait pour éviter la mort ? Et où avez-vous trouvé une chandelle ? Et qui vous a donné des allumettes pour l'allumer ?» « Eh bien, je vais maintenant tout te raconter, » répondit Geppetto. « Sache donc que cette même tempête qui renversa ma barque avait également fait couler un grand bateau plein de marchandises. Tout l'équipage fut sauvé, mais le bâtiment coula à pic et le même requin qui ce jour-là avait un excellent appétit engloutit le bâtiment après m'avoir englouti moi-même. « Comment ? Il l'engloutit tout d'une bouchée ?» demanda Pinocchio. « Tout d'une bouchée. » Et il ne recracha que le grand mât, qui lui était resté entre les dents comme une arête de poisson. Heureusement pour moi, ce bâtiment était chargé non seulement de viande conservée dans des boîtes en métal, mais encore de biscuits, de pain grillé, 2 bouteilles de vin, 2 raisins secs, 2 fromages, 2 cafés, 2 bougies et 2 boîtes d'allumettes. Avec tout cela, grâce à Dieu, j'ai pu vivre pendant 2 ans. Mais j'en suis maintenant à mes dernières provisions. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le garde-manger. Et cette bougie que tu vois allumée est la dernière qui me reste. Et après, papa, après, mon cher enfant, nous resterons tous deux dans l'obscurité. Alors, mon petit papa, dit Pinocchio, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut vite penser à fuir. À fuir? Et comment? En s'échappant de la bouche du requin et en se jetant à la mer, à la nage. Tu parles bien, mais moi, mon petit Pinocchio, je ne sais pas nager. Et qu'importe, vous monterez à cheval sur mes épaules et comme je suis un bon nageur, je vous porterai sain et sauf jusqu'au rivage. Illusion, mon garçon, répliqua Geppetto, en secouant la tête et en souriant mélancoliquement. Tu crois possible qu'un pantin à peine haut d'un mètre puisse avoir assez de force pour me porter à la nage sur ses épaules? Nous essaierons et vous verrez. De toute façon, s'il est écrit dans le ciel que nous devons mourir, nous aurons du moins la grande consolation de mourir dans les bras l'un de l'autre. Et sans rien ajouter, Pinocchio prit la bougie, passa le premier pour éclairer et dit à son père, « Suivez-moi et n'ayez pas peur. » Ils marchèrent ainsi pendant un certain temps et parcoururent tout le corps et l'estomac du requin. Arrivé à l'endroit où commençait l'immense gorge du monstre, ils jugèrent bon de s'arrêter afin de jeter un coup d'œil et saisir le moment opportun pour fuir. Il faut vous dire maintenant que le requin, étant très vieux et souffrant d'asthme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie de la respiration, et de palpitations du cœur, était obligé de dormir la bouche ouverte. C'est pourquoi Pinocchio, se plaçant à l'entrée de la gorge pour regarder au-delà, put apercevoir un petit coin de ciel étoilé et un très beau clair de lune. C'est le moment de fuir, murmura-t-il alors en s'adressant à son papa. Le requin dort comme un loir. La mer est tranquille et l'on y voit comme en plein jour. Suivez-moi donc, mon cher papa, et d'ici peu, nous serons sauvés. Là-dessus, ils escaladèrent la gorge du monstre. Et parvenus dans son immense bouche, ils marchèrent avec précaution et sur la pointe des pieds, sur la langue qui était si large et si longue qu'on l'aurait prise pour l'allée d'un grand parc. Déjà, ils s'apprêtaient à faire un grand saut pour se jeter à la nage dans la mer, quand le requin se mit à éternuer. Achou! Et donna dans son éternuement une secousse si violente que Pinocchio et Geppetto se retrouvèrent renvoyés en arrière et projetés de nouveau au fond de l'estomac du monstre. Dans leur chute, la bougie s'éteignit. Le père et le fils restèrent dans l'obscurité. « Et maintenant ?» demanda gravement Pinocchio. « Maintenant, mon enfant, répondit son père, nous sommes bel et bien perdus. »« Pourquoi perdus ? Non, papa, donnez-moi la main et tâchez de ne pas glisser. »« Mais où me conduis-tu ? Nous allons de nouveau essayer de fuir. Venez avec moi et n'ayez pas peur. » Alors Pinocchio prit son père par la main et marchant toujours sur la pointe des pieds, ils remontèrent ensemble la gorge du monstre, puis parcoururent toute la langue et franchirent trois rangées de dents. Avant de faire le saut décisif, Pinocchio dit à son papa: montez à cheval sur mes épaules et passez vos bras autour de mon cou. Tenez-moi bien et je me charge du reste. Dès que Geppetto fut installé sur les épaules de son fils, le brave pantin se jeta dans la mer et se mit à nager. La mer était calme comme de l'huile. La lune resplendissait de toute sa clarté et le requin continuait à dormir d'un sommeil si profond que le bruit d'une canonnade ne l'eût pas dérangé. Chapitre 36. Pinocchio cesse enfin d'être pantin pour devenir un petit garçon. Tandis que Pinocchio nageait avec vigueur pour regagner la rive, il s'aperçut que son papa, qui se tenait à cheval sur ses épaules et avait les jambes à moitié dans l'eau, tremblait très fort, comme si le pauvre homme avait souffert d'une grosse fièvre. Tremblait-il de froid ou tremblait-il de peur? Peut-être un peu de l'un et un peu de l'autre. Mais comme Pinocchio croyait que c'était la peur qui le faisait trembler, il lui dit pour le rassurer: « Courage, papa, dans quelques minutes nous toucherons la terre et nous serons sauvés. » « Ah, où se trouve donc cette rive bénie ?» demanda le vieillard toujours plus inquiet en regardant au loin avec la fixité d'un tailleur qui enfile son aiguille. « D'ici, j'examine de tous les côtés et je ne vois que le ciel et l'eau. Mais je vois aussi le rivage, dit Pinocchio. Sachez que je suis comme les chats. J'y vois mieux la nuit que le jour. » Le pauvre Pinocchio faisait semblant d'être de bonne humeur alors qu'il commençait lui-même à se décourager. Ses forces diminuaient, sa respiration devenait bruyante et pénible. Bref, il n'en pouvait plus et le rivage était toujours loin. Il nagea tant qu'il eut un peu de souffle. Puis il tourna la tête vers Geppetto et lui dit en hachant ses paroles: « Papa, aidez-moi, car je meurs. » Et le père et le fils allaient se noyer quand ils entendirent une voix grave qui leur dit:
« Qui donc va mourir ici ?»«
Moi et mon père. »
« Mais je reconnais cette voix, tu es Pinocchio !»«
Précisément, et toi ?»«
Moi, je suis le thon, ton compagnon d'infortune dans le corps du requin. Et comment as-tu fait pour t'échapper ?»« J'ai suivi ton exemple, c'est toi qui m'as enseigné le chemin, et à ta suite, je me suis sauvé. » »«
Ah, mon cher thon, tu arrives juste à temps. Je te prie, pour l'amour que tu portes à tous les petits thons, tes enfants, de nous aider, sinon nous sommes perdus. »
« De très grand cœur, tenez-vous tous les deux à la queue et laissez-vous traîner. En 4 minutes, je vous conduirai au rivage. »
Comme vous pouvez bien penser, Geppetto et Pinocchio acceptèrent avec empressement l'invitation. Mais au lieu de se tenir à la queue, ils jugèrent plus commode de s'asseoir sur le dos du thon. « Est-ce que nous sommes trop lourds ?» demanda Pinocchio.
« Lourds ? C'est comme si je portais 2 coquillages, répondit le thon,
qui était d'une corpulence assez forte et aussi gros qu'un veau de 2 ans. Lorsqu'ils furent arrivés à la côte, Pinocchio sauta à terre le premier pour aider son papa à en faire autant. Puis il se retourna vers le thon et lui dit d'une voix émue: « Mon ami, tu as sauvé mon papa. Je n'ai donc pas assez de paroles pour t'exprimer ma reconnaissance. Permets-moi du moins de t'embrasser en signe d'éternelle gratitude. » Le thon avança le nez hors de l'eau et Pinocchio, pliant les genoux jusqu'à terre, lui déposa très affectueusement un petit baiser sur le bout du nez. À ce trait de tendresse si sincère et si spontané, le pauvre thon, qui ne s'y attendait pas, se sentit tellement ému que, dans la crainte de montrer qu'il pleurait comme un enfant, il replongea sa tête dans l'eau et disparut. Pendant ce temps, le jour s'était levé. Pinocchio offrit son bras à Geppetto, qui avait tout juste la force de mettre un pied devant l'autre. Puis il lui dit « Appuyez-vous sur mon bras, mon bon papa, et partons. Nous marcherons tout doucement, comme les fourmis, et lorsque nous serons fatigués, nous nous reposerons au bord de la route. » « Et où irons-nous ? » demanda Geppetto. « À la recherche d'une maison ou d'une ferme où l'on nous fera la charité d'un morceau de pain pour apaiser notre faim et d'une botte de paille pour nous coucher. » Ils n'avaient pas fait 100 pas qu'ils aperçurent, assis sur le talus de la route, deux vilains museaux qui s'étaient postés là pour demander l'aumône. C'était le renard et le chat. Mais ils étaient méconnaissables. Ils étaient vieillis, ravagés par des maladies, pleins de puces et de teignes. « Oh, Pinocchio !» s'écria le renard avec des pleurs dans la voix. « Fais une petite charité à deux pauvres infirmes. »«
Infirmes !» répéta le chat.
« Passez votre chemin, vilain masque !» riposta le pantin. « Vous m'avez trompé une fois, mais vous ne m'y reprendrez plus. »«
Crois-moi, Pinocchio, nous sommes aujourd'hui pauvres et infortunés en vérité. »
En vérité, répéta le chat.
Si vous êtes pauvre, vous le méritez. Rappelez-vous le proverbe qui dit « Argent volé ne profite jamais. » Adieu, vilain masque.
Aie pitié de nous.
De nous, répéta le chat.
Adieu, vilain masque. Rappelez-vous le proverbe qui dit « La farine du diable s'en va tout en son. »
« Ne nous abandonne pas, je te prie. »«
Je t'en prie, » répéta le chat.
« Adieu, vilain masque, rappelez-vous le proverbe qui dit « Qui vole le manteau de son prochain, d'ordinaire, meurt sans chemise. »
Et là-dessus, Pinocchio et Geppetto continuèrent tranquillement leur route. À 100 pas de là, ils virent à l'extrémité d'un sentier, au milieu des champs, une jolie chaumière avec un toit tout en paille et des murs de briques. « Cette chaumière doit être habitée, » dit Pinocchio. « Allons-y et frappons à la porte. » Ils y allèrent en effet et frappèrent.
« Qui va là ?»
dit de l'intérieur une petite voix.
« Nous sommes un pauvre papa et son fils, sans pain et sans gîte. Tournez la clé et la porte s'ouvrira, »
dit la même petite voix. Pinocchio tourna la clé, cric, crac, et la porte s'ouvrit. En entrant, ils regardèrent autour d'eux et ne virent personne.
Mais « où est le maître de la chaumière ?» dit Pinocchio étonné.
« Me voici !»
Le père et le fils levèrent la tête et virent sur une poutre du plafond le grillon parlant.
Oh, mon cher Grillon, dit Pinocchio en le saluant poliment.
Maintenant tu m'appelles ton cher Grillon, n'est-il pas vrai? Mais te rappelles-tu le jour où, pour me chasser de ta maison, tu me donnas un coup de maillet?
Tu as raison, Grillon, dit Pinocchio tristement. Chasse-moi aussi. Donne-moi un coup de maillet. Mais aie pitié de mon pauvre papa qui ne t'a jamais fait de mal.
J'aurais pitié du père et même du fils. Mais j'ai voulu te rappeler ta méchante action. Quand on le peut, il faut se montrer bon avec tous, si nous voulons être traités avec bonté à notre tour.
Tu as raison, Grillon, tu as tout à fait raison, et je me rappellerai la leçon que tu me donnes.
Mais dis-moi, comment as-tu fait pour t'acheter cette jolie chaumière?
Cette chaumière m'a été offerte hier par une gracieuse chèvre qui avait la laine d'un très beau bleu.
Et où est allée la chèvre? Demanda Pinocchio avec une très vive curiosité.
Je ne sais pas.
Quand reviendra-t-elle?
Elle ne reviendra jamais. Elle est partie hier toute triste, et tandis qu'elle pleurait, il m'a semblé qu'elle disait: pauvre Pinocchio, maintenant je ne le verrai plus. À cette heure, le requin doit l'avoir dévoré.
Elle a parlé ainsi? C'était donc bien elle, c'était bien elle, c'était ma bonne fée! Se mit à crier Pinocchio en sanglotant.
Quand il eut bien pleuré, il s'essuya les yeux, puis il prépara un bon petit lit de paille pour que le vieux Geppetto s'y étendît. Ensuite, il demanda au Grillon parlant: « Dis-moi, Grillon, où pourrais-je trouver un verre de lait pour mon pauvre papa ?»«
À trois pas d'ici, tu trouveras le jardinier Jeannot qui a des vaches. Il te donnera le lait que tu désires. »
Pinocchio courut chez le jardinier Jeannot, mais le jardinier lui dit: « Pour combien veux-tu de lait ?»«
J'en veux un plein verre. » »«
Un verre de lait coûte un sou. Commence d'abord par me donner un sou. »
« Je n'ai même pas un centime, » répondit Pinocchio, tout triste.
« Tant pis, mon pauvre pantin, » répliqua le jardinier. « Si tu n'as même pas un centime, je n'ai même pas un doigt de lait à te donner. »
« Hélas, » gémit Pinocchio, et il se disposait à repartir.
« Attends un peu, » dit alors Jeannot, « nous pouvons peut-être nous arranger. Te mettrais-tu à tourner la manivelle du puits ?»«
Qu'est-ce que c'est que cette manivelle ?»«
C'est l'instrument de bois qui sert à monter l'eau du puits pour arroser le potager. »
Ben, « je vais essayer.
Eh bien, tire-moi 100 seaux d'eau et en échange, je te donnerai un verre de lait. »«
Bien. »
Alors Jeannot conduisit le pantin dans le potager et lui apprit la manière de tourner la manivelle. Pinocchio se mit aussitôt au travail, mais avant d'avoir tiré 100 seaux d'eau, il fut inondé de sueur de la tête aux pieds. Il n'avait jamais ressenti une telle fatigue. « Jusqu'ici, dit le jardinier, j'avais réservé cette fonction à mon âne, mais il est sur le point de mourir. »«
Conduisez-moi auprès de lui, » dit Pinocchio.
« Volontiers. »
Dès que Pinocchio fut dans l'écurie, il vit un beau petit âne étendu sur la paille, épuisé de fatigue. Quand il l'eut regardé en face, il se dit à lui-même, tout troublé, « Mais j'ai déjà vu cet âne-là, sa physionomie ne m'est pas inconnue. » S'inclinant jusqu'à lui, il lui demanda dans la langue des ânes, « Qui es-tu ? » À cette question, le petit âne ouvrit ses yeux mourants et balbutia dans la même langue. « Je suis Lumignon. » Puis il ferma les yeux et mourut. « Oh, pauvre Lumignon !» dit à mi-voix Pinocchio. Et il prit une poignée de paille pour essuyer une larme qui lui coulait sur la joue.
« Tu t'émeus pour un âne qui ne te coûte rien ? Que serait-ce si tu l'avais payé avec ton argent ? » dit le jardinier.
« Il faut vous dire que c'était mon ami. »
« Ton ami ?»«
Mon camarade d'école. »«
Comment ?» s'exclama Jeannot en éclatant de rire. « Comment ? Tu avais des ânes pour camarade d'école ?
Alors tu dois avoir fait de fameuses études. »
Le pantin, vexé par ces paroles, ne répondit pas. Il prit son verre de lait presque chaud et retourna à la cabane. Fin de la deuxième face de la sixième cassette, page 273, Pinocchio par Carlo Collodi.